Voltaire, dictionnaire philosophique, assassin, assassinat. Nom corrompu du mot échichessine. Rien n'est plus ordinaire à ceux qui vont en pays lointain que de mal entendre, mal répéter, mal écrire dans leur propre langue ce qu'ils ont mal compris dans une langue absolument étrangère et de tromper ensuite leurs compatriotes en se trompant eux-mêmes. L'erreur s'établit de bouche en bouche, et de plus en plus, il faut des siècles pour la détruire. Il y avait du temps des croisades, un malheureux petit peuple de montagnards, habitant dans des cavernes vers le chemin de Damas. Ces brigands élisaient un chef qu'ils nommaient Cheikh el-Chassissine. On prétend que ce mot honorifique, Cheikh ou Cheikh, signifie « vieux » originairement. De même que parmi nous, le titre de seigneur vient de senior, vieillard, et que le mot grave, comte, veut dire vieux chez les Allemands. Car anciennement, le commandement en civil fut toujours déféré aux vieillards chez presque tous les peuples. Ensuite, le commandement étant devenu héréditaire, le titre de chic, de grave, de seigneur, de comte a été donné à des enfants. Et les Allemands appellent un bambin de 4 ans « Monsieur le Comte », c'est-à-dire « Monsieur le Vieux ». Les croisés nommèrent le vieux des montagnes arabes le vieil de la montagne, et s'imaginèrent que c'était un très grand prince, parce qu'il avait fait tuer et voler sur le grand chemin un comte de Montferrat et quelques autres seigneurs croisés. On nomma ces peuples les assassins et leur chic le roi du vaste pays des assassins. Ce vaste pays contient 5 à 6 lieues de long, sur 2 à 3 de large, dans l'anti-Liban. Pays horrible, semé de rochers comme presque toute la Palestine, mais entrecoupé de prairies assez agréables et qui nourrissent de nombreux troupeaux, comme l'attestent tous ceux qui ont fait le voyage d'Alep à Damas. Le chic ou le vieil de ces assassins ne pouvait être qu'un petit chef de bandits, puisqu'il y avait alors un Soudan de Damas qui était très puissant. Nos romanciers de ce temps-là, aussi chimériques que les croisés, imaginèrent d'écrire que le grand prince des assassins, en 1236, craignant que le roi de France Louis IX, dont il n'avait jamais entendu parler, ne se mit à la tête d'une croisade et ne vint lui ravir ses états, envoya 2 grands seigneurs de sa cour, des cavernes de l'Anti-Liban à Paris, pour assassiner ce roi. Mais que le lendemain, ayant appris combien ce prince était généreux et aimable, il envoya en pleine mer 2 autres seigneurs pour contremander l'assassinat. Je dis en pleine mer, car ces 2 émirs, envoyés pour tuer Louis, et les 2 autres pour lui sauver la vie, ne pouvaient faire leur voyage qu'en s'embarquant à Joppé, qui était alors au pouvoir des croisés. Ce qui s'en redouble encore, le merveilleux de l'entreprise. Il fallait que les 2 premiers eussent trouvé un vaisseau de croisés tout prêt pour les transporter amicalement, et les 2 autres encore un autre vaisseau. 100 auteurs, pourtant, ont rapporté au long cette aventure les uns après les autres. Quoique Joinville contemporain qui alla sur le lieu n'en dise mot. Et voilà justement comment on écrit l'histoire. Le jésuite Mainbourg, le jésuite Daniel, 20 autres jésuites, Mézerac, quoiqu'il ne soit pas jésuite, répètent cette absurdité. L'abbé Velly, dans son Histoire de France, la redit avec complaisance, le tout sans aucune discussion, sans aucun examen, et sur la foi d'un Guillaume de Langis, qui écrivait environ 60 ans après cette belle aventure, dans un temps où on ne comptait l'histoire que sur les bruits de ville. Si l'on n'écrivait que des choses vraies et utiles, l'immensité de nos livres d'histoire se réduirait à bien peu de choses. On a pendant 600 ans rebattu le conte du vieux de la montagne, qui enivrait de volupté ses jeunes élus dans des jardins délicieux, leur faisait à croire qu'ils étaient en paradis et les envoyaient ensuite assassiner des rois au bout du monde pour mériter un paradis éternel. Vers le levant, le vieux de la montagne se rendit craint par un moyen nouveau. Qu'en était-il pour l'immense campagne qu'il posséda, ni pour aucun morceau d'or ou d'argent, mais parce qu'au cerveau de ses sujets il imprimait des choses qui demain fait tout fourrageux étaient causes. Il choisissait entre eux les plus hardis et les faisait donner du paradis, un avant-goût alors sens perceptible du paradis de son législateur. Regardant a dit ce prophète menteur, qui ne devint très croyable et sensible à ces gens-là. Mais comment s'y prend-on? On les faisait boire tout de façon qu'ils s'enivraient, perdaient sens et raison. En cet état, privés de connaissance, on les portait en d'agréables lieux, ombrages frais, jardins délicieux. Là se trouvaient tendrons en abondance, plus que maillés, beaux par excellence. Chaque réduit en avait à couper, s'il se venait joliment attroupé près de ces gens qui, leur boisson cuvée, s'émerveillaient de voir cette couvée et se croyaient habitants, devenus des champs heureux qu'assigne à ses élus le faux Mahom. Lors de faire accointance, turc d'approcher, tendron d'entrer en danse, au gazouillis des ruisseaux de ses bois, au son des luttes accompagnant les voix des rossignols. Il n'est plaisir au monde qu'on ne goûtât de dans ce paradis. Les gens trouvaient en son charme pourpris les meilleurs vins de la machine ronde, dont ne manquait encore de s'enivrer et de leur sens perdre l'entier usage. On les faisait aussitôt reporter au premier feu lieu. Et de tout ce tripotage, qu'arrivait-il? Ils croyaient fermement que quelques jours de semblables délices les attendaient, pourvu que hardiment, sans redouter la mort ni les supplices, ils fissent chose agréable à Mahom, suivant leur prince en toute occasion. Par ce moyen, leur prince pouvait dire qu'il avait gens à déception, déterminés, et qui n'était d'empire plus redouté que le sien ici-bas. Tout cela est fort bon dans un conte de La Fontaine, au vers faible près. Il y a 100 anecdotes historiques qui auraient été bonnes que là. L'assassinat étant après l'empoisonnement le crime le plus lâche et le plus punissable, il n'est pas étonnant qu'il ait trouvé de nos jours un approbateur dans un homme dont la raison singulière n'a pas toujours été d'accord avec la raison des autres hommes. Il feint, dans un roman intitulé « Émile », d'élever un jeune gentilhomme auquel il se donne bien de garde de donner une éducation telle qu'on la reçoit dans l'école militaire, comme d'apprendre les langues, la géométrie, la tactique, les fortifications, l'histoire de son pays. Il est bien éloigné de lui inspirer l'amour de son roi et de sa patrie. Il se borde à en faire un garçon menuisier. Il veut que ce gentilhomme menuisier, quand il a reçu un démenti ou un soufflet, au lieu de se rendre et de se battre, assassine prudemment son homme. Il est vrai que Molière, en plaisantant dans L'amour peintre, dit qu'assassiner est le plus sûr, mais l'auteur du roman prétend que c'est le plus raisonnable et le plus honnête. Il le dit très sérieusement, et dans l'immensité de ses paradoxes, c'est un de ces trois ou quatre choses qu'il est dite le premier. Le même esprit de sagesse et de décence qui lui fait prononcer qu'un précepteur doit souvent accompagner son disciple dans un lieu de prostitution, le fait décider que ce disciple doit être un assassin. Ainsi, l'éducation que donne Jean-Jacques à un gentilhomme consiste à manier le rabot et à mériter le grand remède et la corde. Nous doutons que les pères de famille s'empressent à donner de tels précepteurs à leurs enfants. Il nous semble que le roman d'Émile s'écarte un peu trop des maximes de Mentor dans Télémaque. Mais aussi, il faut avouer que notre siècle s'est fort écarté en tout du grand siècle de Louis XIV. Heureusement, vous ne trouverez point dans le dictionnaire encyclopédique de ces horreurs insensées. On y voit souvent une philosophie qui semble hardie, mais non pas cette bavarderie atroce et extravagante que deux ou trois fous ont appelée philosophie et que deux ou trois dames appelaient éloquence.